France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 26 avril. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, en classe ou devant son ordi, c'est la rentrée pour près de 12 millions d'élèves et leurs enseignants. Un nouveau protocole sanitaire entre en vigueur en maternelle et primaire. Reportage Agnès dès le début du journal, après les autres titres.
Et un triomphe peut-on cacher un autre? La cérémonie des Oscars cette nuit à Hollywood. Trois prix pour la réalisatrice Chloé Zhao et deux statuettes pour un Français.
Et justement, l'invité de France Inter à 7h50, Léa.
Oui, il était jusque-là le dramaturge français le plus joué à l'étranger. Il devient ce matin le réalisateur qui compte en remportant l'Oscar du meilleur scénario pour The Father et aussi l'Oscar du meilleur acteur pour son acteur principal, Anthony Hopkins. Deux Oscars pour son tout premier film. C'est un exploit. Il a choisi France Inter pour partager sa joie ce matin. On est heureux de le recevoir en direct et en studio. C'est Florian Zeller qui sera avec nous.
À tout à l'heure, Léa.
Et dans le journal également, après trois semaines de confinement, quelle est la situation sur le plan épidémique en France? L'analyse de Daniel Messager. Covid toujours, l'Union européenne prépare le passeport vert pour l'été. Et puis, marche-attaque, ou comment passer de la parole aux actes pour la mobilité des personnes handicapées.
À 8h20, le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, Laurent Nunez, au micro d'Inter. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc jour de rentrée pour tous les élèves après deux semaines de vacances, rentrée en distanciel pour les collégiens et les lycéens, avec l'incertitude sur la tenue des systèmes informatiques pour les cours en visio, et une rentrée en présentiel dans les crèches, les maternelles et les primaires. Le protocole sanitaire est renforcé, un cas positif et toute la classe ferme pour 7 jours, sans répartition dans les autres cours, augmentation des tests salivaires jusqu'en 600 000 par semaine, et distribution d'autotests pour le personnel. Alors dans quel état d'esprit sont ce matin les enseignants? Enquête signée Benjamin Recouvreur.
Revenir à l'école, c'est toujours une bonne chose pour Émilie, enseignante dans une école élémentaire de Marseille.
Je vois bien que les chiffres ne sont pas bons, mais je constate aussi que mes élèves ont besoin de retourner à l'école. Moi, je suis très très contente de retrouver mes élèves. Je pense que tout le monde en a besoin et que l'école à distance, c'est pas ce qui est souhaitable.
Mais les inquiétudes sont encore nombreuses. Les annonces de mesures renforcées n'ont pas du tout convaincu Christine, enseignante en banlieue parisienne.
J'espère rien, j'attends rien. Je sais qu'on nous dit qu'il y aura des tests, il n'y en aura pas. On va se retrouver exactement dans la même situation qu'avant ce pseudo-confinement. S'il y a des enfants malades, on va refermer la classe. Enfin, vraiment, je vois aucun changement par rapport à avant.
Plus de tests salivaires, moins de brassage dans les classes. Eric, directeur d'une école dans l'Ouest parisien, ne croit pas du tout en cet énième protocole sanitaire.
Dans les faits, ça ne fonctionne pas correctement. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu un seul test salivaire sur l'ensemble des écoles de la commune dans laquelle je travaille. Il faut savoir que quand un enseignant sera absent, nous n'aurons pas de remplaçant. Ils vont certainement être répartis et il y aura quelques brassages d'enfants, alors qu'en théorie, il ne devrait pas y en avoir le moins possible.
Les enseignants en école élémentaire et maternelle doivent en principe recevoir deux autotests hebdomadaires à partir de cette semaine.
Et point particulièrement sensible, la cantine, les repas pourront être pris en classe, dans les gymnases ou dans la cour, si la météo le permet. Emmanuel Macron assistera à la rentrée ce matin à l'école Paul Cézanne à Melun, en région parisienne. Car la situation sanitaire reste difficile après trois semaines de confinement. L'effet des mesures reste à confirmer. Et à l'hôpital, Daniel Messager, la tension ne faiblit pas.
Les indicateurs restent très élevés, autour de 32 000 contaminations quotidiennes. On ne peut même pas confirmer que le pic a été franchi, assure Santé publique France. Alors à ce niveau, le nombre d'hospitalisations puis de passages en réanimation, autour de 6 000 aujourd'hui, ne peut pas baisser tout de suite. Et dans les hôpitaux, la tension est toujours aussi forte. Ainsi à Marseille, Stanislas Rebaudet est infectiologue à l'hôpital européen.
On fait face à véritablement des afflux de patients. On a une unité Covid qui peut monter aux alentours de 35 lits maximum. Par exemple, on a eu une quinzaine d'admissions en moins de 48 heures. On a réussi à en transférer dans d'autres structures de la ville et on continue à avoir des entrées tous les jours en hospitalisation et puis des admissions en réanimation derrière. Ça fait un an qu'on tient. Le gouvernement, visiblement, se dit tant que ça tient dans les hôpitaux, alors on poursuit. Je ne suis pas certain que ça tienne très très longtemps.
L'effet bénéfique des mesures de restriction commence légèrement à se faire sentir. Moins 18% de taux d'incidence incidence, mais la fin des vacances scolaires inquiète le milieu médical.
Plus on brasse la population, plus les occasions de transmission se multiplient. Cela risque d'augmenter les contaminations.
Des contaminations qui demeurent à un haut niveau, 505 cas pour 100 000 habitants dans les Bouches-du-Rhône, 503 en Île-de-France.
Et c'est vers l'Italie qu'il faut regarder ce matin pour espérer déconfinement dans 15 régions sur 20, avec réouverture des terrasses jusqu'à 22h, des théâtres, des salles de concert et de cinéma. Les déplacements entre régions sont de nouveau autorisés. Nous serons en direct de Rome dans le journal de 8h. Les déplacements, ce sera justement le sujet du Parlement européen réuni en session cette semaine, avec un certificat vert européen pour faciliter la libre circulation en Europe l'été prochain. Angélique Bois.
Tous les Européens en auront un et s'ils ne sont pas encore vaccinés, ce certificat permettra aussi de prouver qu'on a un test négatif au Covid ou que l'on est immunisé après avoir été malade. C'est donc d'abord un outil technique pour faciliter le passage des frontières. Mais au Parlement, certains insistent aussi pour que cela pousse les États à harmoniser enfin leurs restrictions. Si un pays veut en plus de ce document sanitaire imposer une quarantaine, il faudra le justifier, dit d'ailleurs clairement la Commission dans sa proposition. Mais ça va coincer dans les ambassades, admet l'eurodéputée néerlandaise Sophie Hinvelt, pour qui il est tout de même temps de siffler la fin des divisions. Pour l'élu du groupe centriste, ce certificat commun est un bon outil pour y arriver.
Ça commence vraiment à m'énerver que les États membres, c'est-à-dire les gouvernements, tiennent beaucoup à leur propre pouvoir. Un État membre a des restrictions X et l'autre État membre à côté des restrictions Y, et puis ça change tout le temps. En réalité, il s'agit d'une manque de responsabilité parce qu'il rend plus difficile la vie des citoyens.
Le Parlement veut aussi aborder la question des tests pris en charge en France, mais souvent payants et hors de prix ailleurs. 45 euros en Belgique, 60 en Espagne, plus de 150 en Finlande. Il insistera aussi sur la nécessaire protection de nos données médicales. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Et dans une interview au New York Times, la présidente de la Commission européenne déclare que les touristes américains vaccinés auront le droit de circuler au sein de l'Union européenne.
Il est 7h07, Agnès, des rassemblements devant tous les commissariats de France, cet après-midi à 17h30.
Un appel lancé par les syndicats de policiers après le meurtre vendredi d'une policière à Rambouillet. L'attaquant était un Tunisien de 36 ans, radicalisé depuis quelques mois et souffrant de troubles de la personnalité. Un nouveau projet de loi consacré au renseignement et à la lutte contre le terrorisme sera présenté après-demain en Conseil des ministres. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. La politique a deux mois pile du second tour des régionales. Les candidats aux départementales peuvent commencer à déposer leur liste à partir d'aujourd'hui. Mais entre restrictions sanitaires et intérêt limité des électeurs pour ce type de scrutin, les candidats ont bien du mal à faire campagne, comme a pu le constater Marc Potvin.
C'est en ligne qu'a commencé la campagne de Geneviève Darrieussecq, ministre et tête de liste de la majorité en Nouvelle-Aquitaine. Premier événement, un live sur Facebook.
Pour commencer, c'est bon. Bon, eh bien, bonsoir à toutes et tous.
Question posée par un membre de sa campagne.
Vous avez souhaité mettre en place cet échange. Pourquoi donc ?
Bon, moi j'adore le contact avec les gens. Les moyens numériques ne font pas tout, mais ils nous permettent quand même de pouvoir échanger.
Ils ne font pas tout et ils laissent un sentiment de frustration, complète Charles Fournier, tête de liste des écologistes et des insoumis en Centre-Val de Loire.
Quand on est sur Zoom, vous n'avez pas les visages près de vous, vous n'avez pas ce lien humain indispensable et une campagne. C'est aussi une question de confiance, de courant qui passe.
Guillaume Garot aussi multiplie les apparitions sur Internet, une stratégie qui a ses limites, reconnaît la tête de liste PS dans les Pays de la Loire.
Les plus âgés parmi nos concitoyens n'ont pas non plus forcément cette habitude de l'ordinateur et des outils numériques. C'est pour ça que la rencontre directe est si importante.
La distribution de tracts et le porte-à-porte sont autorisés dans le respect des consignes sanitaires. Pour l'instant, les candidats doivent faire une croix sur les meetings, mais le Premier ministre n'exclut pas que ça change si la situation le permet.
Régional et départemental, donc, les 20 et 27 juin prochains. Trottoirs trop hauts, escaliers infranchissables, feux tricolores non sonorisés. L'accès aux services publics et aux établissements de santé reste encore trop souvent un parcours du combattant pour les personnes en fauteuil roulant, mais aussi les poussettes et les livreurs. L'association APF France Handicap appelle à une mobilisation générale cette semaine pour qu'enfin la loi votée en 2005 soit effective. Alors, pour se rendre compte des difficultés au quotidien, Martin Delacou a fait le tour du centre-ville de Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines, avec Christian Lelièvre, paraplégique après un accident.
Comme tous les jours ou presque, Christian se rend dans le centre-ville de sa commune, à 800 mètres de son domicile, et voilà son constat.
L'accessibilité, quel que soit l'endroit, quelle que soit la ville, C'est un chantier permanent.
Christian circule en fauteuil, auquel il peut ajouter une assistance électrique.
Les pavés, c'est impossible à gérer pour nous, c'est très douloureux.
Il a à cœur l'accessibilité des lieux de soins avec les bons élèves.
Vous voyez, la pharmacie, là, elle est accessible.
Et les mauvais, comme ici, où plusieurs professions médicales sont réunies, deux trottoirs et une marche doivent être franchis pour rentrer.
Hier, je suis venu régler une facture, voilà, je me suis posé sur le trottoir, j'ai appelé quelqu'un à l'intérieur et j'ai réglé ma facture sur le trottoir. Je pense que ça, c'est d'un autre temps, quoi. Voilà. On va essayer de rentrer à l'intérieur. Là, on est toujours dans la maison d'Anne.
Oui, je pousse.
Voilà. Les difficultés de Christian gênent visiblement la propriétaire des lieux, inquiète de la possible mauvaise publicité.
Si on pouvait faire autrement, on le ferait maintenant, évidemment. Et puis il n'y a pas qu'ici, monsieur. Oui. Regardez partout.
La question, madame, ce n'est pas de se jeter la pierre. Oui, là, effectivement, ça ne va pas coûter cher. Mais si on peut le faire, madame, si on peut le faire.
Je suis d'accord, voilà. Avec vous à 100%.
Si les services publics sont désormais accessibles, Christian constate ce retard dans plusieurs cabinets, alors que l'accès aux soins est évidemment primordial.
Reportage de Martin Delacoux. Et parmi les actions aujourd'hui, un trajet à Perpignan pour montrer la difficulté de se déplacer en transport en commun. Enfin donc, comme promis, la cérémonie des Oscars cette nuit à Hollywood et un triomphe pour Nomadland de Chloé Zhao qui remporte 3 des plus prestigieuses statuettes, meilleur film, meilleure réalisatrice et meilleure actrice pour Frances McDormand. Chloé Zhao, née à Pékin il y a 39 ans, partie étudier à Londres à l'adolescence avant de s'installer à Los Angeles. Récit d'un triomphe avec Loïc Piala.
And the Oscar goes to Chloé Zhao, Nomadland.
Bong Joon-ho, le réalisateur oscarisé de Parasite, a appelé son nom depuis un cinéma de Séoul et puis Chloé Zhao a marché avec ses blanches baskets vers la scène des Oscars installée dans la gare de Los Angeles. Après les remerciements de circonstance, elle a évoqué les souvenirs des poèmes qu'elle récitait enfant avec son père en Chine.
And the first phrase,
un des poèmes commence comme ça. Les gens naissent bons. Et j'ai toujours trouvé de la bonté chez les gens que j'ai rencontrés partout dans le monde. Alors cet Oscar est pour tous ceux qui ont eu la foi et le courage de trouver leur propre bonté et de s'accrocher à celle des autres, même quand c'est difficile.
Nomadland raconte justement l'histoire d'un deuil et comment les rencontres aident son héroïne à surmonter sa peine. Un film tourné dans l'Ouest américain par une réalisatrice venue de l'Est et désormais première femme non blanche à remporter l'Oscar de la mise en scène. Chloé Zhao, primée à Venise, au Golden Globe et un peu partout, est à 39 ans la nouvelle reine d'Hollywood capable de tout. Son prochain projet, Eternals, un film de super-héros pour Disney. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Magnifique parcours aussi pour le français Florian Zeller qui décroche l'Oscar du meilleur scénario adapté pour The Father avec Anthony Hopkins, sacré meilleur acteur pour ce rôle d'un vieil homme atteint de démence. Florian Zeller, invité en direct et en studio de Léa Salamé tout à l'heure à 7h50.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes sur la vérité, sur le variant brésilien au Portugal.